en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous retrouver dans cette émission qui devient régulière et qui examine les divers occupants des fauteuils de l'Académie française. Alors, quels furent sur le 28e fauteuil de l'Académie française, celui occupé actuellement par Jean-Christophe Ruffin, les prédécesseurs de Monsieur Ruffin? C'est avec Mireille Pastoureau, directeur et conservateur de la bibliothèque de l'Institut de France, que nous poursuivons cette série. Elle a préparé une grande exposition avec beaucoup de documents qui viennent du fond de la bibliothèque de l'Institut. Bonjour Mireille Pastoureau.
Bonjour Hélène.
Alors ce 28e fauteuil, il est tout de même un petit peu problématique parce qu'il faut oser le dire, il y a quelques personnalités connues, mais il y en a beaucoup qu'on a oubliées tout de même. Quel fut le tout premier académicien?
Alors, le tout premier est un petit peu connu tout de même. C'est Jean-Louis Guèze de Balzac, qui était originaire de Balzac en Angoumois, et que Richelieu a voulu fixer à la cour. Guèze de Balzac était un très grand écrivain, l'équivalent pour la prose de Malherbe en poésie. Et il était très connu. Il avait écrit des lettres qui traitaient de l'actualité mondaine, politique et littéraire. Et Richelieu a voulu le fixer à la cour. Il lui a accordé une pension et il lui a quasiment imposé de devenir l'un des premiers membres de l'Académie française lors de sa création en 1634.
Et en fait, il a écrit un ouvrage qui s'intitule « Le Prince ».
Voilà.
C'était juste après Machiavel, je suppose.
Voilà, tout à fait, qui a fait l'objet d'attaques. Et Guèze Balzac a trouvé ses attaques injustes. Il s'est un petit peu vexé et il s'est retiré dans ses terres en Angoumois, de sorte qu'il n'est venu à l'Académie française qu'une seule fois.
Ce qui n'est pas beaucoup.
Il n'a assisté qu'à une seule séance, en 1636, au cours de laquelle il lut des fragments de l'une de ses œuvres.
Alors au moins, il a une qualité, il a défendu Corneille dans la querelle du Cid.
Tout à fait, il a défendu Corneille. Il a été généreux avec l'Académie, à laquelle il a légué une somme d'argent pour fonder le premier prix d'éloquence de l'Académie. Et c'est très important, puisqu'un des grands rôles de l'Académie française est de décerner des prix. Elle continue toujours et il a été le premier pour le prix d'éloquence.
Le deuxième occupant de ce fauteuil, Ardouin de Péréfix, 1605-1671, il était lui homme d'église. Alors là, il faut dire qu'on va passer une série d'hommes d'église qui ne sont pas forcément extrêmement sympathiques dans leur choix.
Tout à fait, mais qui jouaient un grand rôle dans la société du XVIIe et du XVIIIe siècle. Et donc, Ardouin de Péréfix avait été nommé précepteur du dauphin, le futur Louis XIV. Il était devenu son confesseur et il avait joui toute sa vie des faveurs du roi. Il avait rédigé pour le dauphin une histoire de Henri le Grand qui a connu beaucoup d'éditions et Louis XIV l'a nommé archevêque de Paris en 1662.
Ce qui n'est pas rien, effectivement. Alors, je dis qu'il n'était pas très sympathique parce qu'il a voulu contraindre les religieuses de Port-Royal à condamner les thèses jansénistes.
Voilà.
C'était son rôle, certainement.
C'était rôle, il voulait faire plaisir au roi et il a imposé la soumission des religieuses. C'est aussi lui qui a fait interdire le Tartuffe de Molière dès le lendemain de la première représentation.
En 1667.
Exactement. C'était un homme austère et intransigeant.
Alors, le troisième, on le surnomme François III de Harlay. C'est donc François de Harlay de Champvallon. Il a été élu en 1671. Alors, lui aussi, c'est un homme d'église. Et lui aussi, il a pris des positions,
Tout à fait.
On attendait de sa position, naturellement.
Voilà, donc il venait d'une très grande lignée française qui a donné d'importants parlementaires et hommes d'église à la France sous l'Ancien Régime. Il a également été nommé archevêque de Rouen. Dès l'âge de 25 ans, il était archevêque de Rouen. Voilà, et ensuite archevêque de Paris en 1671. Et il est le premier à obtenir que le titre de duc et pair fût attaché à la fonction d'archevêque de Paris. Voilà. Et lui également a mené la politique anti-janséniste et anti-protestante. Il a soutenu Louis XIV, il a pris part à la révocation de l'édit de Nantes. Et c'est lui qui a célébré le mariage secret de Louis XIV et de Madame de Maintenon.
Et qui a refusé que Molière soit enterré à l'église. Voilà. Tout ça n'est pas très sympathique, c'est tout de même ce que je dis. Mais voilà, enfin, bon. Voilà.
Oui, tout à fait. Mais il était un grand orateur, son éloquence était réputée. Et donc, à ce titre, il avait place à l'Académie française, puisque l'Académie illustre la langue française sous tous ses aspects, pas seulement la langue écrite.
Bien sûr. Alors après, nous avons un homme dont le nom est un petit peu connu, André Dacier. Dacier, c'est un helléniste éminent, donc il était aussi à l'Académie des inscriptions et à l'Académie française.
Tout à fait, il fut d'abord élu à l'Académie des inscriptions, puis à l'Académie française. Oui, c'est quelqu'un d'intéressant qui était professeur de grec et qui est connu pour son épouse également, et Madame Dacier. Alors qu'il étudiait à Saumur chez un professeur, il s'était pris de la fille du professeur, de la fille du savant, qui était sa compagne d'études et qui était aussi très excellente helléniste. Il l'a épousée et ils ont formé un des rares couples d'intellectuels de l'Ancien Régime. Ils ont abjuré le protestantisme tous les deux et ensuite ont été récompensés par Louis XIV.
Il fut même secrétaire perpétuel, je crois, d'une académie, n'est-ce pas ?
Il fut secrétaire perpétuel
de l'Académie française ?
Exactement. Il n'a pas laissé une grande mémoire de ce côté-là.
Alors, un autre membre, on en est au cinquième, qui lui aussi a été membre de trois académies, donc la française, les sciences et les inscriptions, c'est Guillaume Dubois, qu'on appelle souvent le cardinal Dubois.
Exactement, et que le grand public connaît à travers le film « Que la fête commence ». Qui se passe sous la Régence, parce que c'était un peu un fripon, le cardinal Dubois. Enfin, c'est le souvenir qu'il a laissé. C'est une carrière de roman. C'était le fils d'un apothicaire de Brive en Corrèze, dont totalement roturier, qui a reçu la tonsure sans conviction à 13 ans et qui a fini après une ascension tout à fait remarquable. C'était un diplomate très habile. Il a fini archevêque de Cambrai, qui était l'un des archevêchés les plus riches du royaume, et qui lui fournit le titre de prince du Saint-Empire, quand on pense à ses origines. Et ensuite, il a été nommé cardinal en 1721, alors qu'il ne savait pas célébrer la messe et qu'il ne cachait pas son impiété. Et il a également été principal ministre en 1722, premier ministre de la France. Il gérait les affaires de la France. Et son arrivée à l'Académie française est très amusante parce que, alors qu'il était à quelques mois de la mort, il ressentait les premières atteintes de la maladie. C'est lui qui a émis le souhait d'être admis à l'Académie française, non par intérêt pour les lettres, auxquelles, de son propre aveu, il était indifférent, mais parce que, dit-il, il s'agissait de la seule décoration qui lui manqua.
Alors on lui a fait plaisir et on l'a élu, ce qui prouve que l'Académie a quelquefois des gestes de charité.
Voilà, mais comme il était principal ministre, il était difficile de refuser.
De refuser, oui. Absolument. Alors, le sixième occupant, Charles-Jean-François Hénaud d'Armorézan, dit le président Hénaud, 1685-1770.
Tout à fait. Ce titre de président lui vient du Parlement, puisque, avec sa fortune considérable, il était fils d'un fermier général, c'est-à-dire d'un grand financier de l'Ancien Régime qui percevait les impôts au nom du roi. Donc, il avait une grande fortune qui lui a permis d'acheter une charge de conseiller au Parlement et il est devenu président de la première chambre des enquêtes du Parlement et on l'a connu sous le nom du président Hénaud. Pendant toute sa carrière, qui était un homme de salon, mondain, mais aussi très savant, intéressé par l'histoire. Et on lui doit quelque chose de très astucieux. Il a publié un abrégé de l'histoire de France sous une formule qui n'existait pas à l'époque et que maintenant nous connaissons bien, c'est sous la forme des questions-réponses qu'il avait apprise pendant ses études au collège des Jésuites de Louis le Grand. Donc il a publié toutes ces questions-réponses et ce livre a eu un énorme succès et Voltaire a dit de lui qu'il était le seul homme qui ait appris aux Français leur histoire.
Bon, ça c'est un compliment, alors bravo pour celui-ci. Le septième occupant, c'est Charles-Just de Beauvoncraux. Donc il a été élu lui aussi dans plusieurs académies, la française, les sciences et les belles-lettres. Mais c'est finalement assez fréquent qu'on trouve des académiciens dans les trois académies,
oui,
en tout cas sur ce fauteuil.
Tout à fait. Et là, on a affaire à un grand personnage qui était aussi d'une très grande famille, la famille de Beauvau, qui était titré prince du Saint-Empire, donc il fut prince de Beauvau, et qui est devenu maréchal de France en 1780. 1983. Il a été secrétaire d'État à la guerre et auparavant, c'était gouverneur du Languedoc, gouverneur de Provence. Donc c'était un ami des philosophes, un protecteur des lettres. Je veux dire que nous n'avons aucune œuvre de lui à la bibliothèque,
mais c'est curieux,
il a joué un rôle. Il a joué un rôle néanmoins dans la vie culturelle de son temps.
Et alors on lui doit l'hôtel de Beauvau, place Beauvau à Paris. Enfin la place Beauvau, quand on en parle à Paris, c'est le ministère de l'Intérieur qui existe toujours. C'est en face de l'Élysée quasiment.
Tout à fait, enfin, voilà. Et oui, c'était sa résidence. Il en fut le locataire de 1770 à sa mort en 1793, donc pendant plus de 20 ans.
Voilà. Et il y accueillit Benjamin Franklin,
voilà.
Dites-vous.
Oui,
formidable.
Tout à fait. Oui, oui.
Le huitième, alors Merlin de Douai, donc c'est Philippe-Antoine Merlin, dit de Douai, donc lui c'est 1754-1838. Alors lui c'est de la période un peu compliquée où l'Institut de France est plus ou moins
fermé. Voilà, les académies sont supprimées en 1793, l'Institut national est créé en 1795 et reconstitue en quelque sorte les académies mais sous un autre nom. Et là on a affaire à un grand personnage de la Révolution. Un avocat, juriste, jurisconsulte, qui a été député du tiers-état de la région de Douai, des Flandres, aux états généraux, et ensuite a participé à toutes les réformes de la Révolution avec beaucoup de sagesse. Il a été membre du comité de législation. Et ensuite, sous l'Empire, il a pris part à la rédaction de plusieurs codes également et a été élu au Conseil des Anciens. Il avait été membre du directoire et Napoléon l'a beaucoup favorisé, l'a nommé conseiller des État à vie, chevalier de l'Empire, comte, grand officier de la Légion d'honneur. Et sa nomination à l'Institut en 1803 s'inscrit parmi ces signes de reconnaissance de Napoléon, de remerciement, de gratitude envers ce qu'il avait fait pour la République.
Donc lui, c'est véritablement un homme qui a vécu toutes les phases de cette période de la Révolution.
Oui, et... tout à fait. Et alors, ce qui est un peu triste, c'est qu'à la Restauration, il a tout perdu. Il a été condamné à l'exil, on l'a destitué. Il a été exclu de l'Institut parce qu'il était régicide. Il avait voté la mort du roi. Et il s'est installé en exil en Hollande, tout près de la France, sous un nom d'emprunt, où il a vécu très modestement. Et il n'est rentré en France qu'après 1830. Et là, il a été nommé à l'Académie des sciences morales et politiques, c'est très amusant, qui a été recréée en 1832 par Louis-Philippe. Il a été nommé à l'Académie des sciences morales après avoir été exclu de l'Institut
Et que conservez-vous de lui dans la bibliothèque?
Voilà. Alors, outre ses œuvres imprimées, nous avons un document que j'aime beaucoup, qui est très émouvant. C'est une lettre qu'il a écrite pendant son exil, quand il est aux Pays-Bas. C'est une lettre extrêmement modeste. Il l'écrit à l'envoyé du roi de France. Donc nous sommes sous la Restauration. Et il a très peur d'être obligé encore de s'exiler plus loin. Et donc il est aux Pays-Bas. Il a déjà essayé de partir aux États-Unis en bateau. Son navire a fait naufrage. Et il écrit une lettre donc au comte de la Tour du Pin, envoyé de Louis XVIII. Il lui dit « Monsieur le comte, j'ose vous supplier de me tendre une main secourable et du de votre pouvoir pour me tirer de l'abîme où je suis plongée, déjà parvenue à ma 64e année et encore affectée des douleurs rhumatismales qui sont la suite de mon naufrage, etc. Puis-je être forcée de me rembarquer pour l'Amérique, seule asile qui me reste, etc. »
Voilà. La dure vie des proscrits. Alors.
Exactement, oui, tout à fait.
Le 9e occupant de ce siège, c'est le comte Ferrand, qui s'appelait comte Antoine-François-Claude Ferrand, 1751-1825, qui lui est plutôt
alors c'est tout
un
le contraire.
Magistrat. Lui,
oui.
C'est l'inverse.
Et
voilà,
c'est politiquement, c'est tout le contraire. C'est quelqu'un qui a émigré dès 1789, qui était... totalement royaliste, qui détestait la Révolution et l'Empire et qui donc s'est fait tout petit, tout modeste pendant la Révolution et l'Empire et qui au moment de la Restauration, à ce moment-là, a été nommé ministre, directeur des postes, pair de France et comme il avait écrit des œuvres, des poésies, des tragédies, il a été élu à l'Académie française.
Donc ça prouve que l'Académie est très ouverte, quelles que soient les orientations politiques. Finalement, ce n'est pas forcément un critère.
Exactement. Et une fois que les membres sont élus, ils balaient toutes leurs différences, toutes leurs dissensions. Et voilà, ils sont tous amis.
Voilà, le dixième occupant, Casimir de Lavigne. Alors là, c'est un nom qui nous dit quelque chose, Casimir de Lavigne. C'est un poète, un auteur dramatique. Sans doute a-t-il eu un grand succès.
Exactement, il a eu un grand succès par ses pièces de théâtre, par ses poésies. Et alors, c'est un fils d'un négociant du Havre qui a écrit des poèmes dès le collège. Et ce qui est amusant, c'est qu'il avait comme condisciple au collège Eugène Scribe, qui était aussi un futur académicien et qui vient du Havre comme lui. Lui, son domaine, c'était l'amour de la patrie, la grandeur de la patrie. Il a développé ce thème et il est devenu en quelque sorte le poète de la patrie avec une œuvre qui s'appelle Les Messéniennes et qui est parue en 1818, qui a eu un très grand succès.
Il a été élu à l'Académie française, je vois cela dans le document que vous avez établi sur lui, avec une très grande majorité, 27 voix sur 28 en 1825, à l'âge de 32 ans.
Tout à
C'est
fait.
Très jeune.
Exactement. Il était le benjamin de l'Académie, mais on dit qu'il a été peu assidu aux séances. Mais c'était une gloire de la littérature à l'époque. Et voilà. Il était également proche du duc d'Orléans, le futur Louis-Philippe. C'était sa tendance politique.
Son successeur est plus connu. Alors lui, il est resté dans les mémoires et dans la littérature contemporaine. C'est Sainte-Beuve, 1804-1869.
Oui, je ne me risquerai pas à parler de Sainte-Beuve, qui est une immense personnalité, que le recteur Gérald Antoine a si bien étudiée. Donc, je me suis contentée de voir ses relations un petit peu avec l'Académie, ses candidatures, parce que c'était un petit peu difficile.
Il était l'ami de Victor Hugo.
Voilà,
déjà.
Enfin l'ami, oui. Il a été d'abord l'ami de Victor
l'ami,
Hugo.
Oui.
Très jeune, il s'est lié d'amitié avec Victor Hugo. Et puis, des histoires personnelles que tout le monde connaît. Sa proximité avec Adèle, l'épouse de Victor Hugo, qui était délaissée, mais qui n'a pas plu à Victor Hugo. De sorte que quand Sainte-Beuve a été candidat à l'Académie française, il lui manquait toujours une voix pour être élu, c'était celle de Victor Hugo. Et par le plus grand des hasards, c'est Victor Hugo qui fut chargé de le recevoir sous la coupole et de prononcer le discours embarrassante situation. Et j'ai relu ce discours et c'est très amusant parce que Victor Hugo vraiment tourne autour du pot, c'est-à-dire renacle à parler de Sainte-Beuve et parle bien plus de Casimir de Lavigne, prédécesseur de Sainte-Beuve, dont par ailleurs Sainte-Beuve fait l'éloge, de sorte qu'au cours de cette séance, Casimir de Lavigne, on peut dire, a eu deux éloges par Victor Hugo et par Sainte-Beuve.
Oui, c'est très amusant. Quelquefois, en effet, les éloges sont prononcés pas forcément par un volontaire, il y a un désigné. Et quand le désigné n'aime pas beaucoup celui dont il doit parler, ça se sent quelquefois dans le discours.
Exactement.
Maintenant, je crois qu'on l'évite un peu, ce genre de situation, j'ai cru comprendre. En tout cas, voilà Sainte-Beuve, donc, dont on sait qu'il a écrit « Critiques et portraits »,« Causeries du lundi »,« Les nouveaux lundis ». Enfin, c'était voilà. Même...
Alors, ce qui est amusant pour notre connu. Histoire ici de la maison, c'est qu'il était conservateur de la bibliothèque Mazarine
oui.
au moment où il était candidat à l'Académie française. Et vous savez, la bibliothèque Mazarine se trouve dans les locaux de l'Institut, où c'est un peu le contraire. Et ce qui est amusant, c'est que Prosper Mérimée, qui était candidat en même temps que lui, qui avait deux fauteuils libres, a attendu dans le bureau de Sainte-Beuve les résultats de l'élection et que les deux mamans des candidats étaient également présentes dans le bureau du conservateur de la bibliothèque Mazarine. Et heureusement, ce jour-là, l'issue a été favorable.
Les deux ont été élus. Donc c'est très bien. Donc vous conservez aussi à la bibliothèque un portrait de Sainte-Beuve, portrait photographique de 1868.
Oui, vous savez, c'est une bibliothèque qui a reçu beaucoup de dons divers. Donc ça, c'est un don reçu en 1936. Sainte-Beuve avait dédicacé un portrait à un professeur de l'école normale supérieure qui s'appelait Paul Jacquinet, qui avait été son professeur. Et c'est plutôt Jacquinet qui a donné ce portrait à un autre personnage. Et ça a été, c'est arrivé,
ça est arrivé
dans
chez vous. Voilà.
Voilà. Oui.
Le 12e occupant, il faut dire qu'il y en a 20, donc nous ne sommes pas tout à fait au bout, mais ça vient. Le 12e occupant, c'est Jules Janin. C'est un romancier, alors 1804-1874. Alors lui, c'était vraiment un très grand...
C'est un grand...
Prolifique écrivain.
Prolifique écrivain qui est un des premiers à avoir vu l'importance de la presse. Et il a eu des phrases très claires, très lumineuses, disant que le journal est le souverain maître de ce monde, c'est la seule souveraineté inviolable, c'est mieux qu'un pouvoir de droit, c'est un pouvoir de fait. Enfin, il a vu le pouvoir de la presse. Mais il a échoué plusieurs fois à l'Académie française. Il a échoué 3 fois. Et après le 3e échec, il était vraiment mortifié et il a fait quelque chose de très amusant. Il a rédigé un discours de réception qu'il a publié et qu'il est venu déclamer devant la porte de l'Académie, sur le parvis, là, 2 pas de l'endroit où nous sommes, et qu'il a ensuite publié. Et c'est un discours très amusant. Et après ça, 4 ans plus tard, l'Académie a pensé à lui, et sans qu'il eût besoin de renouveler ses visites, il fut élu en avril 1870.
Mais il est mort en 1974, donc il n'y est pas resté très longtemps. Il est succédé par un John Lemoine, qui, contrairement à ce qu'on son prénom indique, n'est pas uniquement anglais, mais il est né à Londres de parents français.
Tout à fait.
Et ce John Lemoine, bon...
T'es journaliste également. Voilà.
Après cela, on a Ferdinand Brunetière, qui lui est tout de même encore connu comme historien de la littérature.
Exactement, oui.
C'est un essayiste. Alors, ce Brunetière aussi a été élu contre Zola. C'est surtout ça qui m'a amusée.
Oui, tout à fait. Oui, oui. Il faut dire que Brunetière n'avait qu'un amour dans la littérature, si je puis dire. C'est le XVIIe siècle. Tout le reste lui déplaisait. Donc, il était vraiment contre le naturalisme, contre le positivisme. Il ne prônait que l'idéal classique.
Le 15e occupant fut Henri Barbeau. Lui, c'est un avocat. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il s'est illustré dans des procès assez célèbres. Enfin, en tout cas, oui. Dont les personnages étaient célèbres.
Exactement. Il a défendu Sarah Bernhardt. Il a été aussi l'avocat de Ferdinand de Lesseps lors du scandale de Panama.
Lesseps, qui était membre de l'Académie des inscriptions, je crois.
Voilà, oui. De la Française également.
Et de la Française
oui,
aussi.
Oui, oui. Mais cette affaire lui a valu quelques amis parmi les porteurs de bons du canal et failli lui coûter son élection à l'Académie.
Le 16e occupant, c'est Henri Rougeon. Alors lui, il a plutôt été aux Beaux-Arts. Il était secrétaire de Beaux-Arts, puis il a été à l'Académie française.
Tout à fait. C'est très intéressant comme parcours. Il a fait une carrière administrative et qui l'a conduit à la direction des Beaux-Arts, qui est un poste qu'il a occupé jusqu'à la guerre de 14.
Un peu comme ministre de la Culture.
Exactement.
Au fond,
Et à ce titre-là, il était influent et il avait publié quelques ouvrages et donc l'Académie française l'a accueilli.
Et puis Louis Barthoux qui lui succède, qui alors lui est un homme politique connu, célèbre, qui fut plusieurs fois ministre.
Exactement, voilà. Grande figure de la Troisième République, grand notable de la Troisième République, ministre. Il a été président du Conseil, il était député des Basses-Pyrénées pendant de nombreuses années et aussi un grand bibliophile. Il avait une bibliothèque magnifique qui a été vendue aux enchères à sa mort et c'est la première fois qu'on a vendu autant de manuscrits. C'est la première grande vente publique de manuscrits littéraires. C'est cette vente de la bibliothèque Barthoux. En 1935-1936, il a fallu plusieurs vacations. Il y avait plus de 2000 lots dans cette bibliothèque. Et il a lui-même écrit des ouvrages sur la période romantique. Il aimait beaucoup Victor Hugo, les poètes romantiques. C'était aussi un admirateur de Wagner. Il fréquentait assidûment le festival de Bayreuth et il a encouragé la construction du théâtre des Champs-Élysées.
Ça, c'est plutôt sympathique, mais il est mort tragiquement.
Il est mort tragiquement. Il a été tué le 9 octobre 1934 à Marseille. Alors qu'il accueillait le roi Alexandre de Yougoslavie en visite officielle et le roi a été tué par un terroriste croate et Louis Barthoux qui se trouvait à ses côtés a été blessé par erreur par l'arme d'un policier français et il n'a pas été soigné à temps et il est décédé des suites de ses blessures.
C'est Claude Farrère, le romancier, qui lui succède. Donc, c'est le 18e occupant de ce fauteuil, 1876-1957. Là, on entre vraiment dans notre siècle. Claude Farrère, on le connaît comme l'ami de Pierre Loti, essentiellement.
Exactement. Ils étaient tous les deux officiers de marine. Et Pierre Loti l'avait encouragé et avait remarqué son premier recueil de nouvelles en 1904, qui s'intitulait « Fumée d'opium ». Et il l'a encouragé.
Et enfin, on a atteint le 19e occupant, alors sur lequel on ne va pas dire la liste complète de ses œuvres, car c'est totalement impossible, on en aurait pour un quart d'heure, c'est Henri Troyat. 1911-2007, qui a été élu à l'Académie française en 59, dites-vous, et qui est resté 48 ans
absolument
sur ce fauteuil. C'est absolument une belle longévité.
Exactement, avec à peu près 2 livres par an. En publiant.
Voilà, donc j'ai même pas osé. Vous avez courageusement remis toute la liste.
J'ai remis beaucoup, oui, pour montrer cette abondance. Et ce sont des livres, pour la plupart, qui ont eu un grand succès
dans
le public. Oui.
Et alors, il y a des livres posthumes qui sortent en ce moment, sur lesquels Canal Académie propose des émissions, car les éditions de Falloir publient des livres qui n'avaient jamais été publiés de Henri Troyat. Donc, nous ne manquons pas de vous les signaler. Nous en avons déjà signalé 2 et je vous en annonce un 3e pour bientôt. Merci Mireille Pastoureau de ce tour d'horizon sur ce 28e fauteuil de l'Académie française. Vous savez que cette série comporte plusieurs histoires de différents fauteuils. Nous en avons encore quelques-uns à faire, rassurons-nous, puisqu'il y en a 40. Nous n'en sommes qu'au 6e ou 7e, donc on aura l'occasion de se retrouver.
Avec plaisir.
Merci à vous.